Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Afrique sera à l'honneur de ce magazine. L'Afrique et l'économie solidaire, c'était le thème d'un symposium organisé par l'Académie pontificale des sciences. L'Afrique et les conséquences du sida, c'est depuis plus de 10 ans une des priorités de la Compagnie de Jésus. Interview et reportage dans cette émission. Nous parlerons également de la vie consacrée, chère au pape François, à tel point qu'il a décidé de lui consacrer une année entière en 2015. L'année 2015 sera donc dédiée à la vie consacrée. Le pape François l'a annoncé ce vendredi matin dans la salle du synode au Vatican. Le souverain pontife s'est entretenu pendant 3 heures avec les quelques 120 membres de l'Union des supérieurs majeurs. Celle-ci s'était réunie en assemblée plénière ces jours-ci à Rome, sous la présidence du père Adolfo Nicolas, supérieur général de la Compagnie de Jésus. Au cours de cette assemblée, le débat s'est focalisé sur les défis posés par le magistère et par l'exemple du pape François. Le récit de 3 expérience a été à la base des réflexions et des rencontres, d'où l'intérêt de cette audience pontificale qui s'est déroulée selon le style du Saint-Père Bernard de Cotigny.
Le pape a passé toute la matinée avec les supérieurs. Pas de discours préparé à l'avance, mais un échange fraternel et cordial, un question-réponse à bâton rompu. Le premier groupe de questions portait sur l'identité et la mission de la vie consacrée. Dieu, a répondu le pape François, demande aux religieux de sortir de leur nid et de partir pour les frontières du monde, en évitant toutefois la tentation de vouloir les apprivoiser. Interrogé à propos des vocations, il a insisté sur l'inculturation des charismes. L'Église doit demander pardon et avoir honte des échecs apostoliques dus à des malentendus dans ce domaine, comme dans le cas de Matteo Ricci. Le pape a longuement insisté sur la formation spirituelle, intellectuelle, communautaire et apostolique. Il faut éviter toute forme d'hypocrisie et de cléricalisme, a-t-il dit. L'objectif est de former des religieux au cœur tendre et non pas aigris comme le vinaigre. Qu'on accepte les pécheurs mais pas les corrompus. À propos de la fraternité, il faut la vivre si on veut être fécond, même si cela n'est pas toujours facile. Les conflits, il ne faut pas les gérer, mais bien les caresser, a-t-il lancé. Autre dossier crucial, le rapport entre les ordres religieux et les églises locales. Les évêques doivent comprendre que les personnes consacrées ne sont pas des auxiliaires, mais des charismes qui enrichissent les diocèses. Parmi les priorités pour les religieux en fonction de leur charisme, le pape François a cité les exclus, ainsi que l'éducation au sein des écoles et des universités. Et avant de prendre congé, il a remercié les religieux pour leur action, leur témoignage, mais aussi, bien sûr, pour les humiliations qu'ils doivent endurer.
Ce samedi, en début de soirée, le pape François priera avec les milliers d'étudiants des universités romaines. Dans la basilique Saint-Pierre, il présidera l'office des Vêpres du premier dimanche de l'Avent, ce temps spirituel important qui ouvre l'année liturgique et nous prépare à l'arrivée du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Ce rendez-vous annuel est organisé par le Bureau pour la pastorale universitaire du Vicariat de Rome. À cette occasion, l'icône Marie, trône de la sagesse, conçue à la demande de Jean-Paul II pour le jubilé de l'an 2000 et dédiée au monde universitaire, sera remise au monde étudiant français par une délégation brésilienne. Cette icône à la symbolique forte, qui a déjà circulé dans tous les continents, vient en effet de passer 12 mois au Brésil en lien avec les JMJ. Ce samedi, au cours de la veillée d'entrée en avant, en présence du pape François, le monde étudiant français sera représenté par une délégation de 10 étudiants, membres de l'équipe nationale de la pastorale étudiante et du bureau national de chrétiens en grande école. Cette délégation du réseau Ecclesia Campus, service de la Conférence des évêques de France, aura ensuite pour mission de faire circuler l'icône dans les lieux étudiants français pendant 1 an, aumônerie, université, foyer, groupe de prière. Elle sera présentée les 3 et 4 décembre prochains aux aumôniers étudiants réunis pour leurs assises nationales annuelles à Paris. Le Vatican a accueilli ce vendredi un symposium international sur l'économie solidaire et le développement durable en Afrique. Ce symposium était organisé par l'Académie pontificale des sciences et par la Fondation Sorella Natura, Dame Nature, à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de Saint François d'Assise comme patron des défenseurs de l'environnement. Des responsables politiques et religieux comme Romano Prodi, représentant de l'ONU pour le Sahel, et le cardinal Maradiaga, président de Caritas International, nationalistes participaient au débat. Objectif, attirer l'attention sur le potentiel de développement de ce continent et dessiner des solutions de développement économique et durable. Pour les promoteurs, il faut aider l'Afrique à sortir de la cistana, éviter toute forme de néocolonialisme, protéger l'humanité africaine et son environnement naturel. Le compte-rendu de Jean-Baptiste Cocagne.
Regarder l'Afrique avec des yeux nouveaux, voilà l'ambition lancée par la majorité des intervenants à ce symposium. L'articulation entre le développement économique et le développement durable ne se fera qu'à la faveur d'une prise de conscience des Africains eux-mêmes. Cécile Kienge, ministre italienne de l'intégration.
Je crois qu'on doit partir par reconnaître que chacun de nous est une opportunité, reconnaître que les diversités sont une ressource. Et à partir de là, je crois que le développement doit commencer d'abord sur le continent africain, à partir des ressources qu'on a sur le continent africain. Et sur le renforcement des capacités des personnes, c'est-à-dire l'empowerment. Et je crois qu'à partir de là, on pourrait travailler pour un développement durable sur le continent.
L'empowerment, c'est-à-dire l'émancipation, la responsabilisation des populations locales pour les faire participer véritablement au projet de développement. Autrement dit, il faut sortir de la logique de l'assistanat en pariant sur l'éducation et la formation. Et ça marche, selon Mario Giro, sous-secrétaire au ministère italien des Affaires étrangères et responsable des relations internationales de la communauté religieuse de Sant'Egidio.
Le développement durable en Afrique a à voir avec, naturellement, les ressources naturelles du grand continent. Mais moi, je pense que la première ressource, c'est les hommes et les femmes de l'Afrique qui sont en mesure de redresser leur continent, comme on le voit, par la croissance soutenue de ces dernières années. L'Afrique n'a pas souffert de la crise financière, mais il y a encore des fortes inégalités. Surtout, il faut que les Africains se prennent en main eux-mêmes, comme ils sont en train de faire. Il y a beaucoup de programmes et de projets. L'Afrique n'est pas seulement le continent des guerres, de la famine, de la pauvreté, c'est le continent aussi de la démocratie, par exemple. Ou c'est le continent qui en passe de devenir le deuxième continent qui abolit la peine de mort, par exemple. C'est un continent où l'alternance est devenue un fait acquis. Donc, c'est un continent qui se gère pour le 21e siècle avec une grande force de la part de ses habitants. Il y a des changements profonds, il y a des changements anthropologiques, la jeunesse africaine est plus entrepreneuriale, elle veut vraiment chercher d'être une nouvelle génération qui peut-être abandonne certains mythes du passé, mais vraiment cherche à faire de ses propres pays des pays de démocratie et de développement.
Dans cette perspective, en Afrique, il faut jouer sur deux échelles, l'une continentale et l'autre régionale. Romano Prodi, ancien président du Conseil italien, est aujourd'hui le représentant de l'ONU pour la région du Sahel. Selon lui, l'Afrique pêche par manque d'unité politique pour mener à bien son développement.
Il y a la possibilité d'avoir un nouveau développement de l'Afrique, mais il faut lutter contre le terrorisme, pousser pour la paix. Deuxième, coopérer entre les pays africains. Les économies d'échelle des pays isolés ne sont pas suffisantes. Il y a différents étages parce qu'il faut avoir une approche continentale pour les règles, pour aider la démocratisation des pays, les règles et les grandes lignes de coopération. Mais dans les interventions concrètes, c'est seulement la dimension régionale qui marche maintenant. La stratégie économique, c'est plus régionale que continentale.
Ces règles au niveau continental pourraient concerner le respect des droits de l'homme, encore trop souvent bafoués dans certains pays d'Afrique. Et dans ce dossier, comme l'a souligné Cécile Kienge, la contribution de l'Église est fondamentale.
La journée mondiale contre le sida se déroule le 1er décembre chaque année depuis 1988 sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé. Elle vise à favoriser la prévention contre le virus VIH. Cette année, elle met l'accent sur l'amélioration de l'accès des adolescents aux services de prévention, de traitement et de soins. Aujourd'hui, plusieurs tests de dépistage sont disponibles. Le sida commence à être perçu comme une pathologie chronique, contrôlable et curable au travers des médicaments antirétroviraux modernes. L'Église catholique est l'un des majeurs dispensateurs de soins à ceux qui vivent avec le VIH-Sida dans le monde. Parmi les nombreuses associations qui travaillent sur le terrain, le réseau jésuite africain contre le Sida, fondé en 2002 par les supérieurs majeurs jésuites d'Afrique pour répondre à cette pandémie de manière concrète et évangélique. Il est aujourd'hui présent dans plus de 25 pays africains Bénin, où il vient en aide surtout aux pauvres qui n'ont pas accès aux soins adéquats. Le père Kizito est un jésuite rwandais au Nigeria. Il s'occupe de sensibiliser les populations locales et notamment des villages reculés à la maladie. Selon lui, les efforts de lutte contre le sida commencent à porter leurs fruits sur le continent.
En général, le sida recule partout en Afrique. Pourquoi ? Parce que d'abord, les gens sont sensibilisés, ils se protègent. Deuxièmement, c'est que en fait, les médicaments antirétroviraux sont maintenant très connus. Ils arrivent presque partout actuellement en Afrique. Nous, on s'occupe de sensibilisation, de lutte contre le sida, en donnant des formations à des formateurs dans différents centres de lutte contre le sida en Afrique, des centres jésuites en fait. On sensibilise les gens à comment se protéger contre le sida et s'ils sont malades, comment se faire soigner. Donc c'est au niveau de la santé, c'est pas au niveau médical. Il y a des villages reculés dans les pays en Afrique qui ne connaissent pas ce que c'est le sida. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est à partir des formations qu'on donne aux gens et dans les écoles, sur les écoles secondaires, les écoles privées, les écoles primaires. C'est là qu'on parle, on aide les jeunes gens à parler de sida et à savoir ce que c'est le sida. C'est à partir de là que les gens sont éveillés et commencent à savoir ce que c'est. C'est que les villages reculés, en fait, ne contactent même pas le sida parce qu'ils ne sont pas en contact avec des gens qui sont déjà infectés.
Est-ce que l'État fait assez pour venir en aide aux malades, pour soutenir les malades et soutenir les efforts de prévention ?
Dans certains pays, oui, mais dans certains autres, non. Par exemple, mon pays, au Rwanda, au Burundi, donc c'est la région que je maîtrise beaucoup mieux. Les deux gouvernements sont sensibles et se sont arrivés en fait à faire une bonne politique contre le sida. Et ils reçoivent beaucoup d'aides quand même, venant surtout des États-Unis d'Amérique, surtout pour le Rwanda. Donc la population est très bien sensibilisée à ce niveau-là et par le gouvernement. Mais certains pays, par exemple, comme le Congo, c'est un continent, là où ils sont passés la guerre dernièrement, les gens ne savaient pas. Parce qu'ils sont très reculés, sont des endroits inaccessibles. En fait, c'est là que notre projet s'oriente pour le moment.
Est-ce que l'image du sida a changé en Afrique ?
Oui et non. Dans des villes, les gens savent très bien que c'est une maladie. Mais dans les villages reculés, les gens sont encore convaincus qu'il s'agit d'empoisonnement, qu'il s'agit en fait que des maladies que les gens apportent aux autres par empoisonnement. Ils ne croient pas que c'est une maladie sexuellement transmissible. Et que c'est une maladie qui peut être contactée par le sang. Et c'est là, en fait, le défi que nous avons.
Et l'Église, quel est son rôle dans cet effort pour sensibiliser les populations et venir en aide aux populations en ce qui concerne le sida ?
L'Église de Rwanda fait de très bons progrès, et surtout dans les écoles, ce qu'on appelle des écoles privées chrétiennes. Et dans ces écoles, il y a toujours les gens qui sont chargés de programmes sida. Et qui parcourent partout dans tous les secteurs des écoles et pour parler de sida aux jeunes et même aux enseignants. L'Église a fait de très bonnes choses. Et d'ailleurs, dans beaucoup de centres de santé de l'Église catholique, je vais dire, il y a toujours un secteur sida.
Le père Kizito, jésuite rwandais, membre du réseau jésuite africain contre le sida au Nigeria, était interrogé par Olivier Toscri. Le torchon brûle en Corée du Sud entre l'Église catholique et les autorités. Dernier épisode en date, rapporté par l'agence Église d'Asie, une homélie qui menace de dégénérer en crise politique. Elle a été prononcée le 22 novembre dernier par un prêtre, vétéran des luttes pour la démocratisation des institutions politiques de son pays. Celui-ci a évoqué le soupçon qui pèse sur les services secrets sud-coréens d'avoir tenté d'influencer le scrutin en faveur de la présidente Park, élue en décembre dernier. Il a par ailleurs laissé entendre que les tensions intercoréennes étaient instrumentalisées par la droite conservatrice dont est issue l'actuelle présidente pour fédérer les électeurs sud-coréens autour d'un ennemi commun. Madame Park a très vite réagi en accusant le prêtre d'avoir tenu des propos favorables à la Corée du Nord, Hélène Détombe.
Tolérance zéro face à toute action qui viendrait diviser le peuple et amoindrir la confiance de l'opinion, c'est la réponse de la présidente. Elle ne s'est pas fait attendre. Madame Park s'est dit prête à répliquer de manière immédiate et ferme à toute provocation inattendue de la Corée du Nord. Elle accuse le prêtre d'avoir tenu des propos favorables à Pyongyang, un acte qui tombe sous le coup de la loi sur la sécurité nationale. De son côté, le Premier ministre a qualifié ses propos de destructeurs pour le pays et favorables à l'ennemi. Tanzanie. Des manifestations d'anciens combattants ont eu lieu devant plusieurs églises catholiques à travers le pays. La cathédrale de Séoul et l'archevêché tout proche ont même dû être évacués après une alerte à la bombe, tandis que des policiers anti-émeute en assuraient la protection. La presse locale parle déjà de conflits entre l'église et l'État, d'autant que la présidente ne cache pas sa mauvaise humeur face à la mobilisation au sein de l'église catholique pour obtenir la vérité au sujet des élections. Le mois dernier, déjà, un déjeuner au siège de la présidence entre Madame Park et cet évêque a été annulé à la dernière minute par la présidente. Dans un communiqué, l'archevêque de Séoul a tenu à rappeler qu'il n'appartenait pas au pasteur de l'église d'intervenir directement dans l'action politique et dans l'organisation de la vie sociale. Reste que plusieurs groupes religieux, catholiques mais aussi protestants et bouddhistes, ont appelé à dénoncer les pratiques des autorités qui renvoient, selon eux, aux années de la répression sous la dictature militaire.
Et en France, à partir de samedi et jusqu'au 8 décembre, les catholiques sont appelés à prier et à jeûner pour les élus et la paix dans le pays. Et particulièrement pour François Hollande, le président de la République, et pour le gouvernement. Derrière cette initiative, il y a 6 jeunes catholiques originaires de Toulouse, d'Aix-en-Provence, de Nantes et d'Île-de-France. Alors pourquoi ont-ils décidé de lancer cet appel à la prière? Les explications de Louis, il est étudiant et l'un des 6 jeunes à l'origine de cette neuvaine.
Un morceau avant d'aller à une veillée de prière et d'adoration dans une paroisse de Paris. Et puis on discutait un petit peu du climat social qui règne en France. Et c'est vrai qu'on faisait un constat finalement assez négatif. Donc en faisant son déboussolé, que les attentes des citoyens ne sont pas satisfaites par les élus. Et puis finalement, on s'est dit que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de prier pour nos élus. On ne fait que répondre à l'appel de Saint Paul dans la lettre à Timothée, et puis plus récemment à notre pape François, dans une homélie là, le 16 septembre, nous appelait très clairement, catholiques, à prier pour ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent.
Et pourquoi axer sur la personne des élus?
On croit beaucoup à la force de la prière et du jeûne. Si vous voulez, on a l'impression que nos dirigeants ne savent plus forcément quelle valeur servir, et qu'ils ont un peu oublié qu'il fallait qu'ils servent avant tout le bien commun et le bien du peuple entier. Et cette neuvaine, ça, elle est là pour demander au Seigneur que ceux qui nous gouvernent soient éclairés par l'Esprit Saint et retrouvent un peu le sens du bien commun et qu'ils se rappellent qu'ils sont là avant tout pour servir leurs frères et les citoyens de façon générale.
Qu'est-ce que vous attendez de cette neuvaine?
D'une part, que les catholiques français se rendent compte que c'est important de prier pour les élus et que c'est pas quelque chose qui doit être accessoire, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre prière quotidienne, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Ça, c'est le premier fruit. Le deuxième fruit, c'est effectivement que nos dirigeants soient éclairés par l'Esprit Saint, servent le bien commun. Et le troisième fruit qu'on espère de cette neuvaine, c'est la paix sociale dans notre pays. Enfin, dans un pays qui ne sait pas trop où il va, il y a une tentation d'une violence physique de la part de certains manifestants dans les derniers mouvements sociaux qu'il y a pu avoir ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, c'est un peu les trois fruits qu'on espère de cette neuvaine, et particulièrement pour nos élus.
En quoi consiste cette neuvaine? Comment elle va être rythmée?
À tous les catholiques français, d'abord d'aller sur notre site internet qui s'appelle lafranceenprière.fr, et sur ce site, ils peuvent s'inscrire pour d'abord choisir un élu pour lequel ils vont prier plus particulièrement pendant cette neuvaine. Donc ça peut être le président de la République, le premier ministre, un des ministres du gouvernement, le maire de leur commune, le député de leur circonscription, etc. Ensuite, tous les jours, du 30 novembre au 8 décembre, de prier la petite prière qu'on a mise en ligne sur le site, qui est en fait tout simplement la prière la neuvaine de l'Immaculée Conception, qu'on a légèrement modifié, et puis ensuite de terminer par une dizaine de chapelets. Et puis la deuxième chose qu'on propose, c'est de jeûner le vendredi 6 décembre.
Louis, l'un des 6 jeunes à l'origine de la grande neuvaine de prière pour la France, interrogé par Audrey Radondi. Toujours en France, sachez que le salon de l'Association des écrivains catholiques de langue française se tiendra ce samedi à Paris. Une centaine d'auteurs d'horizons divers y dédicaceront leurs œuvres, théologiens, philosophes, historiens, médecins, romanciers ou encore auteurs de BD. Une conférence sera donnée sur le thème « L'identité sexuelle est-elle un objet politique ?». L'Association des écrivains catholiques de langue française compte environ 400 membres, fédérés par un même esprit qui les anime en raison de leur foi commune. Et puis sachez que, comme chaque année en la fête de Saint-André, patron du patriarcat de Constantinople, une délégation du Saint-Siège se rendra à Istanbul ce samedi pour participer aux festivités organisées par l'Église orthodoxe. Emmenée par le cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, elle remettra au patriarche un message du pape. De la même manière, une délégation orthodoxe effectue chaque année une visite à Rome le 29 juin à l'occasion de la fête des Saints-Pierre et Paul. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne fin de semaine à tous.